Bienvenue au balado, le balado où on parle de nos ados, ces petits trésors d'êtres humains en pleine quête d'identité qui tentent, avec les moyens du bord, de faire leur place dans le monde. Pour cette troisième saison, les étudiants et étudiantes de troisième année du baccalauréat en enseignement de l'éducation physique et à la santé de l'Université de Montréal s'emparent du micro afin de vous transporter dans le monde des ados. En leur compagnie, vous, les nombreux auditeurs et auditrices du balado, en apprendrez davantage sur les enjeux actuels et à venir qui touchent nos adolescents. Alors, attachez votre calotte cielée avec de la broche, car ce ne sont pas les sujets d'intérêt qui manquent cette saison.
Bienvenue à ce tout nouvel épisode du balado des étudiants du cours PPA 3310, l'adolescent et l'école comme milieu de vie. Aujourd'hui, Jordan, William et moi-même, Étienne, avons la chance de recevoir le docteur en psychologie du sport, Sylvain Guimond. Nous discuterons de l'anxiété de performance des jeunes dans le milieu scolaire. Sans plus tarder, bonne écoute!
Donc, bonjour tout le monde, bonjour les gars. Merci beaucoup Sylvain d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation.
Ça me fait plaisir.
En fait, notre balado va être sur l'anxiété de performance en contexte scolaire. Donc, on va vraiment essayer d'aller en profondeur dans les facteurs qui mènent à ça. On va parler des conséquences, puis on va aussi parler des moyens. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis Sylvain va entrer dans la discussion. Il va nous apporter son expertise, j'en suis assuré. Puis, pour présenter un peu Sylvain... comment le faire? Je me suis même fait une petite liste d'épicerie tellement qu'il y a du stock, là, en fait. éducateur physique, ostéopathe, docteur en psychologie du sport, auteur, conférencier, chroniqueur télé et président fondateur de Biotonix. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Sylvain? Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter?
Non, t'as rien oublié, c'est parce que je suis vieux. Fait que j'ai pas beaucoup de choses, c'est juste parce que je suis vieux.
OK, mais c'est pour ça, là. Je me disais qu'avec tout ça... Il a commencé à travailler il y a 3 ans parce que je ne sais pas, tu as trouvé le temps où de faire tout ça, mais bref,
une belle... Non, c'est parce que j'ai gradué en éducation physique en 1986.
OK.
Vous étiez même pas dans les pensées de vos parents.
Non, probablement. Je ne sais même pas s'ils connaissaient les miens, d'ailleurs.
Bon, ben, salut Sylvain. On va commencer par juste détailler la question du jour pour savoir un peu où est-ce qu'on va s'aligner. Notre question, ça va être quelles sont les causes et les risques de l'anxiété de performance et comment les enseignants peuvent intervenir pour diminuer le phénomène chez les élèves.
Excellent.
Donc, parfait. On va commencer par juste différencier un petit peu c'est quoi le stress et l'anxiété, parce que je pense qu'il y a des gens qui peuvent confondre un peu les deux thèmes, là. Donc, le stress, c'est vraiment une réaction de l'organisme face au danger. Donc, c'est vraiment quand tu fais face à un défi ou à une situation difficile, ton corps va réagir puis ça va venir affecter un peu ta psychologie, mais aussi ta physiologie. Donc, tu vas avoir des hormones qui vont être relâchées. Tu vas avoir plein de processus qui vont faire en sorte que ton corps va fonctionner un petit peu différemment. De son côté, un peu l'anxiété, c'est différent. C'est vraiment plus l'anticipation d'un danger. On parle surtout de avant le danger, qu'est-ce qui va se passer. Puis, la réaction physiologique et psychologique, c'est pas mal la même chose. Donc, c'est ça, le plus gros problème, c'est que tu vis une situation de stress, mais à long terme. Donc, c'est pas mal ça, un peu la difficulté avec l'anxiété. Puis, je vais te lire une définition de Sonia Lupien. Elle disait que l'anxiété de performance, ça survient lorsque le cerveau a un problème d'estimation et surestime une menace. Donc, cette menace correspond à n'importe quelle situation. Dans le contexte scolaire, on peut penser surtout à un examen. Sinon, toi, Sylvain, est-ce que tu pourrais me donner un peu ta définition de l'anxiété de performance puis qu'est-ce qu'on pourrait faire sortir comme caractéristique commune chez tes patients?
Oui, bien, la définition que Sonia le bienfait est très bonne. Moi, le stress, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement négatif, c'est quelque chose de neutre. Un stress qui est négatif, c'est un distress. Un stress qui est positif s'appelle un eustress. Mais le stress en tant que tel, c'est nous qui nous donnons la couleur, comment on le perçoit, un peu comme ce que Sonia a dit. Pour moi, les athlètes ont besoin aussi d'une forme de stress qu'on appelle le niveau d'activation. Chez les chanteurs, on dit que c'est le trac. Donc, il ne faut pas toujours le voir négativement. Ça devient de l'anxiété, ça devient beaucoup plus sévère lorsque, effectivement, l'anxiété, c'est d'anticipation. Donc, c'est tout le langage interne qu'on entretient qui fait en sorte qu'on a peur de ce qui va arriver. Puis c'est là qu'on vit un moment d'anxiété qui est beaucoup plus grand. Et là, ben, malheureusement, l'anxiété, il y en a différentes formes. Il y a une anxiété qui est d'anticipation, l'anxiété de performance et une anxiété qui peut être généralisée si ça dure trop longtemps. C'est pour ça que le stress, il faut que ce soit quelque chose qui soit court, de courte durée, qui ne soit pas trop fréquent et surtout ben, qu'on soit capable de le contrôler à partir de notre soliloque, notre conversation interne.
Bon, Joe, tu veux avec tes causes?
Oui, c'est enrichissant, honnêtement. Là. Puis justement, de cette anxiété-là de performance, là, tu as parlé des athlètes, mais ça peut se vivre aussi à l'école. Ça reste que l'adolescent ou la personne veut performer, puis ça peut créer justement de l'anxiété. Puis...
Exactement. C'est vrai que les examens, c'est souvent anxiogène pour la majorité d'entre nous. C'est stressant, puis c'est normal. Puis effectivement, il faut développer notre estime de soi pour être capable de faire face à ces défis-là.
Exactement. Puis tantôt, avec William, avec Étienne et toi, on va développer certains, on va expliquer certains moyens. Mais avant d'expliquer ces moyens-là, je vais juste définir quelques causes, parce qu'on peut se dire de où que ça vient, pourquoi. Premièrement, ça peut être héréditaire. Donc, j'ai justement lu une étude en faisant un petit travail de préparation qui a un enfant, exemple, dont le père il vit avec un trouble anxieux. Il a 3 à 5 fois plus de chances de vivre de l'anxiété au courant de sa vie. Donc, je trouvais ça quand même important puis intéressant d'une façon à amener sur le sujet. Il y a aussi quelques facteurs individuels qui est... Entre autres, le sentiment d'efficacité personnelle. C'est quoi ce sentiment-là? C'est le jugement qu'il y a une personne il y a quant à sa capacité de réaliser la tâche. Dans un contexte scolaire, ça peut être l'examen, mais ça peut être, exemple, un exposé oral ou quelque chose comme ça. Donc, c'est un peu un cercle vicieux en sens que plus un élève il a un faible sentiment d'efficacité, donc il a moins confiance en lui pour ce qui est... à réaliser la tâche, bien, plus le risque de développer de l'anxiété est grand. Je ne sais pas si toi, avec ton expérience, ce sentiment-là, ça t'allume quelque chose? Ou...
C'est très bon ce que vous faites, les gars. Bref, si mes habiletés sont très élevées et que la tâche est ennuyante, ça va être de l'ennui, c'est trop facile. Mais si au contraire, la tâche semble trop difficile pour moi, pour les capacités que je crois être capable de le faire, à ce moment-là, ça devient de l'anxiété. Donc, c'est comme si il y a un juste milieu qui fait qu'on est très performant et qu'on est bien quand la tâche est à un niveau où on est adéquat pour le faire. Il ne faut pas que ça soit trop facile non plus, ni trop difficile. Trop facile, c'est de l'ennui, et trop difficile, bien, ça devient de l'anxiété.
Bon, parfait. Merci d'ajouter ça. Il y a aussi, bien, c'est ça. En ce comportement-là, il y a aussi comportement du perfectionnisme. Ça peut être une bonne chose, comme que tu viens de dire, mais il y a le perfectionniste pathologique, que lui, c'est pas nécessairement... Ben c'est assez négatif. C'est quoi les caractéristiques d'une personne comme ça? Ben, cette personne va vouloir que la tâche soit réussie à 100%, puis elle va avoir de la difficulté à accepter les échecs ou même ressentir une satisfaction après l'avoir fait. Donc... Puis, de ce fait-là, ces stratégies d'études, parce qu'on ramène ça en contexte scolaire, ils peuvent en souffrir, si je peux dire ça comme ça, parce qu'il y aura de la misère, cette personne-là, d'établir différentes stratégies d'études. Parce que, ben justement, en fonction de l'examen, tu n'es pas obligé de tout le temps étudier de la même façon, mais là, cette personne-là va tellement vouloir mettre beaucoup d'heures.
Ouais.
Donc là, il pourra pouvoir peut-être exercer de l'étude superficielle ou même assimiler une surcharge d'informations juste avant l'examen qui n'est pas nécessairement très bon.
C'est la peur de l'échec. C'est tellement bon ce que tu dis, là, vraiment. Et moi, j'ai écrit un petit texte là-dessus qui ne dure pas très longtemps, je vais vous le dire. Ça dit « Pourquoi il y a si peu de gens qui réussissent? » Mais malheureusement, parce qu'il y en a trop qui ont peur de l'échec. Pourquoi ont-ils peur de l'échec? Parce qu'ils manquent d'estime de soi. Pourquoi manquent-ils d'estime de soi? Parce qu'ils n'ont pas su relever des défis. Pourquoi n'ont-ils pas su relever des défis? Mais c'est parce qu'ils ont peur de l'échec. Donc, c'est un cercle vicieux.
Puis, exactement. Puis, ces défis-là que tu dis, bien, il y en a qui vont percevoir ça comme un gros obstacle, mais il y en a qui vont percevoir ça justement comme un peu une forme « Ah, je vais le faire ». Mais, tu sais, les enseignants, parfois, ils mettent des... grande charge de travail, puis encore là, c'est un défi. Il y en a qui, les plus anxieux vont voir, c'est une grosse montagne, mais il y en a aussi qui vont prendre, bien, on va y aller une chose à la fois, Puis ça va les aider aussi. Là. C'est un autre facteur. Ce qui m'amène à parler du facteur de l'environnement scolaire, c'est qu'ils vont avoir, parfois, ils vont avoir une pensée. Exemple, là, je parle, quand je dis eux, je veux dire les élèves qui vivent avec des troubles de l'anxiété de performance. Là, un facteur, c'est que ça peut être qu'ils vont avoir une pensée qui ressemble un peu au sophisme de la pente fatale là, que j'ai appelé ça, mais c'est un gros mot pour dire que si. C'est un beau mot que je voulais mettre, je pense. Là, c'était un peu pour, pour me vanter, je pense. Mais c'est que s'il échoue un examen, il va penser que c'est une situation d'échec. Puis, situation d'échec, c'est quoi? Ben, il ne fera pas le métier de tireur. Fait que là, on embarque dans tout ce
ça amène vraiment énormément d'anxiété parce qu'on n'a pas beaucoup de choix, puis c'est très fataliste.
Exactement. Puis il y a aussi, là, si je veux passer, l'influence familiale, je vais tout de suite aller là-dessus parce que je pense que c'est un gros aspect de l'anxiété de performance. Lorsque je parle même avec mes amis ou selon les recherches qu'on a faites, c'est l'attente des parents qui sont peut-être trop élevé pour soit le niveau de capacité ou même le désir de l'adolescent. Là. Il a peur de décevoir ses parents ou des réactions négatives face à un échec. Donc, tu sais, il ne voit pas l'évaluation, c'est censé, tu sais, pour juste voir l'apprentissage, pas juste, là, mais voir l'apprentissage. Mais des fois, l'enfant que ses parents, ils ont mis beaucoup de pression, bien, il va voir comme si je l'échoue, bien, je vais les décevoir. Là. Mais ça ne devrait pas être ça, en fait. Je ne sais pas si...
Non, effectivement, c'est dans plusieurs domaines, malheureusement, mais effectivement, quand les attentes sont trop hautes, on les place dans un environnement qui n'est pas adéquat parce qu'il faut qu'ils fassent des erreurs, comme on parlait tantôt, mais je trouve ça important d'en parler parce que je pense que souvent, les parents vont faire de la projection, ils voudraient beaucoup pour leurs enfants. C'est pas avec une mauvaise intention. Ils veulent le meilleur pour leur enfant, donc ils s'attendent et ils voudraient que l'enfant performe bien. Mais malheureusement, souvent, ils ne se rendent pas compte que l'enfant, lui, ben, il veut plaire à ses parents, puis il a peur de décevoir, donc il se met de la pression. Mais souvent, dans les deux cas, c'est pas mal intentionné. C'est juste qu'on manque de mots pour s'expliquer clairement chacun dans quelle position on se retrouve. Donc, les parents peuvent dire, ben, je suis désolé, je ne voulais pas te mettre autant de pression. Et le jeune, ben, il peut dire, ben, j'avais tellement peur de vous décevoir. Quand les gens se parlent comme ça, ben, ça amène un climat beaucoup plus simple, puis ça aide les jeunes à mieux performer parce qu'ils abaissent le niveau de stress puis d'anxiété. Qui disait tantôt justement que lorsqu'on est anxieux, on peut commettre des erreurs à cause de l'anxiété.
Exactement. Puis cette anxiété-là, elle peut amener à des... Ben, certaines conséquences, certains risques. Puis c'est là que je fais une passe à palette à William pour le laisser parler un peu.
Enfin, merci, George. Vas-y, William, tu as eu la poque sur la palette, il faut que tu te casses.
Exactement, c'est ce que je m'en vais faire à l'instant.
Ouais, j'ai joué en Québec, puis il n'est pas bien bon pour ça, mais bref, continue.
Honnêtement, mais juste te remercier, Sylvain. Je t'entends parler depuis tantôt, puis honnêtement, j'ai des frissons dans le dos parce que je trouve ça super sharp ce qui se passe. Tu nous complètes super bien, puis. Même nous, présentement, on a fait une très jeune travail de recherche, mais on apprend davantage présentement. Là, on embarque un peu plus sur les conséquences liées à l'anxiété. On les a divisées sous 3-4 catégories qu'on va passer peut-être en 5, maximum 10 minutes. La première catégorie, ce serait les conséquences physiologiques. Donc, c'est les principaux signes qu'on voit des conséquences physiologiques. Généralement, ça va être augmentation de la fréquence cardiaque. On va avoir peut-être un peu plus chaud. On peut voir les mains moites, entre autres. Sinon, on peut avoir des maux de tête, des maux de ventre qui peuvent venir avec ça, des troubles de l'anxiété. Ouais. As-tu quelque chose à rajouter, Sylvain?
Bien, en fait, quand on est anxieux, une des choses qui va se passer, c'est qu'il y a une augmentation du cortisol. Le cortisol, c'est fantastique. Quand on a mal un peu partout, ça enlève l'inflammation. Mais le cortisol, au niveau du cerveau, c'est nocif. Ça va atrophier les cellules nerveuses de notre cerveau. Donc, on augmente le taux de cortisol. Puis il y a deux petites parties dans notre cerveau. Tu sais, au début, c'est que la partie du centre de notre cerveau va sécréter cette partie-là pour qu'on puisse se défendre. Mais lorsque ça devient en trop grande quantité, ça va atrophier deux petites parties au cerveau qui s'appellent l'hippocampe. L'hippocampe, bien, c'est notre mémoire de travail. Donc, ce que vous disiez tout à l'heure, vous avez tellement raison que quand tu es stressé, bien, ça vient affecter ta mémoire de travail, ton travail directement. Fait que souvent, les jeunes sont bons, mais ils sont tellement stressés qu'ils en perdent leurs moyens. C'est exactement ce que vous avez dit. Et ça, c'est pas parce qu'ils le veulent, mais c'est vraiment physiologique.
Exactement. Je sais que ça, justement, on va en parler un peu plus tard de la cognition négative puis l'interférence des habiletés. Oui. Mettons, si on reste un peu dans la physiologie, on peut voir aussi des problèmes dermatologiques comme l'apparition de l'eczéma ou l'acné. Sinon, on peut aussi avoir des problèmes de sommeil, donc difficulté à s'endormir ou juste rester endormi durant la nuit. Le problème avec tout ça, c'est qu'il y a des personnes qui vont aller vers la médicamentation, donc vont prendre des médicaments qui ne sont pas nécessairement prescrits pour eux ou ils ont des médicaments qui sont prescrits pour eux, mais qui vont aller dans l'excès, donc en trop grande quantité pour essayer de réduire justement ces conséquences-là. Maintenant, si on s'en va un peu plus sur les problèmes de l'anxiété, mettons liés à un aspect un peu plus, une diminution de la performance, les études montrent comme quoi que l'anxiété va nuire à l'apprentissage. Comment ça le fait? C'est que ça va nuire à l'attention qu'un élève peut porter sur une tâche. Je prends l'exemple, tu sais, un enseignant pose une question devant le groupe, puis il va cibler moi, par exemple. Puis là, je vais me poser la question, OK, mais si je réponds pas bien à cette question-là, ben je vais peut-être faire rire de moi dans la classe, mon enseignante va me dire que j'ai pas raison. Donc là, ça va faire en sorte que, au lieu de penser à la question qui peut être vraiment facile à répondre, je pense aux conséquences, donc je perds de sortir sans la réponse qui vient avec ça.
Ouais, c'est un très bon point.
Exactement. Sinon, on en parle un peu, la cognition négative, ben la cognition négative, c'est avoir une moins bonne estime de soi ou une moins bonne estime de ses capacités. Juste parce que en fait, on a trop un gros stress, on est trop anxieux, on a peur de ne pas réussir, donc on pense qu'on n'a pas les moyens pour le faire. Ça, généralement, ça va amener à l'interférence des habiletés. Donc, on va dans un examen, on connaît notre matière, on est prêt à la faire. Par contre, étant donné que peut-être que les attentes sont trop élevées envers nous, on va commencer à oublier des informations qu'on connaît dans la vie de tous les jours, puis ça va faire en sorte qu'on aura peut-être une moins bonne note à l'examen ou dans un travail ou dans une présentation orale. Le problème avec tout ça, tu sais, c'est que je veux pas, ça va créer un cercle vicieux parce que ça va commencer qu'on a une certaine attente envers nous, ou peut-être nos parents ont une attente envers nous, on va dire un 90%, mais pour nous, c'est trop difficile de se rendre à ça. Donc, on va une cognition négative parce qu'on pense qu'on est pas capable de le faire. Ce que ça va faire, c'est que pendant l'examen, bien, on va avoir une interférence des habiletés qui va nuire à nos capacités de d'écrire ou de penser ce qu'on est capable de faire normalement. Ce qui va créer un moins bon résultat, puis là, la chaîne va repartir pour essayer d'avoir un meilleur résultat au prochain examen qui va amener encore une condition négative. T'sais. Toi, Sylvain, c'était dans ta pratique, mettons, comment tu observes ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu vois souvent? C'est peu commun?
Ça arrive. Ouais, ça arrive souvent chez les athlètes là, qui vont performer très, très bien là, quand il n'y a pas de stress. Ils vont faire les choses de façon exceptionnelle en pratique. Puis on arrive dans un climat où il y a une compétition. Puis là, ben, parce qu'il y a une compétition, ben là, ils se mettent plus de pression. Puis là, ils vont moins bien réussir. Et pourtant, ils sont capables de le faire habituellement. Fait que ce qu'on essaie de faire avec eux, c'est une partie de visualisation pour qu'ils voient qu'ils peuvent bien le faire. Ça les rassure. Puis ensuite, ce qu'on fait, c'est toute la partie du soliloque, de la conversation interne. Donc, ce que tu expliques, c'est vrai. Dans toutes les sphères de notre vie où on doit performer. Puis, au moment où on reprend le contrôle de nous, de notre estime de nous, de la confiance qu'on a en nous, et surtout l'image qu'on projette sur les autres, parce qu'à l'adolescence, souvent, on veut être comme les autres, on ne veut pas être mis à part, on ne veut pas, comme tu disais tantôt, on ne veut pas faire rire de soi. Fait qu'on veut faire partie de l'équipe, malheureusement, mais. À cause de ça, on ne prend pas de risques, on ne va pas de l'avant, fait qu'on reste à l'écart. Et malheureusement, ben, à ce moment-là, c'est pas à cet endroit-là qu'on va apprendre. C'est quand on est capable de prendre certains risques parce qu'on a assez confiance en soi.
Exactement. Puis, je vais finir sur une petite dernière chose que je vois que le temps file aussi. Il y a des personnes, justement, vu que l'anxiété va devenir à un moment donné trop grand, il va y avoir un évitement de la performance qui va pouvoir se résulter, par exemple, puis on le prend à vue, nous, quand on était au secondaire, même au cégep, des élèves qui ne vont pas se présenter lors d'examens, de présentation orale ou des trucs comme ça, puis ça peut même venir mener jusqu'à un décrochage si l'anxiété est trop présente dans notre vie ou dans nos études. Ou, tu sais, toi, tu parles avec des athlètes, j'imagine qu'il y a déjà des athlètes qui ont justement arrêté leur sport parce que le niveau de performance devait être trop gros pour ce qu'ils étaient capables de supporter. Là.
On, Bon, on l'a vu récemment là, au tennis, on l'a vu, ben, même Jonathan Drouin a arrêté pendant une certaine partie une certaine période, il a pris un temps de recul. On le voit de plus en plus, on voyait ça moins avant, mais aujourd'hui, on dirait que les gens ont moins peur d'en parler, donc s'ils ne se sentent pas bien, ils vont le dire. Puis l'épuisement professionnel ou la dépression, c'est présent autant chez les athlètes que chez le grand public en général, puis chez nos jeunes aussi. On le voit, là, c'est énorme, puis on va sentir qu'ils sont épuisés, parce que si on reste anxieux dans une anxiété généralisée trop longtemps, la seule chose que le corps peut faire, c'est de tomber en dépression. Donc, on va tomber dans l'épuisement. En fait, nous, on voit ça comme étant négatif, puis ça l'est, mais en même temps, c'est la seule façon qu'ils puissent arrêter le cercle vicieux dans lequel ils sont embarqués. Ils vont prendre un certain temps de repos, rebâtir leur confiance en eux, puis reprendre leurs moyens. Fait que c'est vrai que l'anxiété, il faut l'envisager, il faut faire en sorte qu'on reprenne le contrôle le plus possible pour ne pas se rendre jusqu'à tomber malade. Je pense que ça ne vaut pas la peine que personne se rende malade avec des examens. Donc, on voudrait qu'ils puissent bien performer et qu'ils prennent ça ben, pour ce que c'est l'examen, pas pour une finalité, comme on disait tantôt.
Exactement. Puis là, je pense qu'on va partir justement sur un thème un peu plus intéressant. Ça va être les moyens que nous, on va pouvoir utiliser en pratique. Puis toi, tu vas pouvoir me donner peut-être des petites pistes de solutions. Fait que je vais essayer Étienne d'aller là-dedans.
Excellent. Ouais.
Donc, j'aimerais ça juste conclure aussi sur le cycle qui se répète. Là. Souvent, ben, ça amènerait dans le contexte scolaire du décrochage scolaire, ce qui est vraiment un enjeu qu'on essaie de combattre en enseignement. Donc, c'est pour ça que c'est justement important de parler de l'anxiété de performance parce qu'on veut justement éviter le décrochage scolaire. Donc, c'est bien intéressant. Maintenant, on va entrer vraiment plus dans le côté pratique. Donc, qu'est-ce que les enseignants peuvent faire pour agir auprès de leurs élèves qui sont anxieux? Le premier élément qu'on a vu, c'est d'agir sur le climat de classe. Donc, en tant qu'enseignant, c'est nous qui va gérer un peu l'environnement de l'élève. On a vu que dans nos recherches, que pour diminuer l'anxiété des élèves, on pouvait premièrement établir un lien de confiance entre l'enseignant et l'élève. Fait juste d'avoir une relation solide, que l'élève te fasse confiance dans son développement, bien déjà là, ça va le rassurer puis ça va diminuer son anxiété. Il y avait aussi le fait d'amener des aspects ludiques dans les activités en classe. Ça permet aussi d'enlever un petit peu l'aspect performance puis l'aspect de vraiment fatalité de l'enseignement puis du développement scolaire. Donc, l'aspect activité ludique, c'était bien important. On a aussi vu que c'était important de laisser du temps aux élèves, donc de surcharger les élèves avec plein d'informations. Mais ça faisait en sorte que là, le défi devient trop grand, puis justement, ça mène à leur décrochage. Donc, un autre élément qui est important. Puis un dernier élément par rapport au climat de classe, on a vu que c'est important aussi d'afficher l'agenda de la période. Donc, vraiment donner les étapes claires aux élèves pour qu'ils sachent un peu où est-ce qu'on va s'en aller, puis ça va un petit peu les rassurer, puis on va les aider par rapport à leur gestion du stress. Mais moi, on se demandait, Sylvain, toi... si tu avais un truc vraiment pour agir sur l'entourage de l'élève ou l'entourage d'un individu qui vit l'anxiété de performance, aurais-tu un truc qui te vient en tête qu'on n'a pas nommé ou bien développé sur un truc qu'on a donné?
Bien, une des choses que vous avez dit qui est vraiment important, c'est de créer un climat de confiance. Le climat de confiance qu'on porte envers quelqu'un qui nous aide, comme un professeur, mais le climat de confiance aussi qu'on redonne à l'élève, de leur dire que ils sont capables et qu'ils peuvent le faire. Parce que trop souvent, ils sont très durs avec eux-mêmes. Notre soliloque interne, là, notre conversation interne, si on était dans une équipe puis qu'il y a un de nos joueurs qui est assis avec nous sur la même ligne puis il nous fait une passe sur la palette, comme on disait tantôt, puis que la personne manque la passe, bien, quand on arrive au banc, on ne se met pas à l'engueuler. Souvent, ce qu'on va dire, c'est pas grave, on va se reprendre, puis le prochain chiffre qu'on va embarquer, là, je suis sûr que ça va bien aller. C'est comme ça qu'on parle avec nos coéquipiers. Mais quand on se parle à soi-même, c'est rarement comment on le fait. On est excessivement dur avec soi-même. Si on était aussi dur avec soi-même qu'on l'est avec nos collègues, nos amis, probablement qu'on n'aurait pas beaucoup d'amis au bout d'une semaine ou deux. Donc, c'est vraiment de se porter du respect à soi-même et de se parler avec du respect de la façon dont on est. Parce que notre communication interne, nos pensées, c'est ce qui va générer nos émotions, mais c'est ce qui établit aussi l'image que j'ai de moi. Si l'image que j'ai de moi, elle est négative, active, bien, il y a de fortes chances que je ne serai pas capable d'accomplir ce que je veux. Et c'est là que les jeunes, ils vont avoir du décrochage scolaire parce qu'ils croient qu'ils ne sont pas capables. Et c'est là de voir des gens qui réussissent, qui sont capables de le faire, mais qui ont déjà eu des difficultés à l'école. Si vous verriez comment il y a de gens qui ont bien réussi dans la vie en n'étant pas des premiers de classe, et malheureusement, comment est-ce que de premiers de classe qui n'ont pas nécessairement bien réussi dans la vie, ça arrive fréquemment. Donc, ce qui fait la différence, c'est comment ils vont se percevoir. Puis qu'un jour, lorsqu'ils trouvent quelque chose qu'ils aiment avec beaucoup de passion, bien, ça nous aide vraiment à faire face à des défis qui sont encore plus grands. Chez les athlètes de haut niveau, c'est un peu la même chose. Quand moi, je travaille avec eux autres, je leur dis toujours, quand ils m'appellent, ils me disent « Hey Doc, I think I lost my confidence. » Je pense que j'ai perdu ma confiance. Je leur dis « On va prier Saint-Antoine, puis on va la retrouver. » Donc, ils rient un peu de ça. Mais je suis sérieux en disant que la confiance que tu as, on va la retrouver. La seule chose qui se passe en ce moment, il y a une léthargie, ça va un peu moins bien. Mais je leur dis « On revient à la base. On va dédramatiser la situation. » Si je t'avais dit à 14 ans qu'un jour, tu aurais été un joueur de la Ligue nationale, probablement, tu aurais été le gars le plus content au monde. Là, ils me disent tout, ah, j'aurais sauté partout, j'aurais été content. Mais je leur dis, OK, bien, saute partout en ce moment, là, puis sois content parce que c'est ce que tu es. Et là, ça, on réalise qu'ils sont rendus à ce niveau-là. Donc, on va dédramatiser. C'est une courte période de temps que ça va moins bien, mais ils vont revenir à ça. Donc, on les amène à sortir un peu de la léthargie dans laquelle ils se sont placés eux-mêmes. Parce qu'ils perdent leur repère. Quand on perd nos repères, là, quand on perd ce qu'on faisait de bien, ce qu'on fait, c'est ce qu'on cherche. Puis plus on cherche, moins on se trouve. Parce qu'on essaie de changer des choses. Et quand on change des choses, il y a une période d'apprentissage pour faire des choses différemment. Puis il va y avoir aussi certains échecs à l'intérieur de l'apprentissage. Donc, quand ils reviennent à qui ils sont vraiment, quand ils retrouvent ce qu'ils sont bons, dans quoi ils sont bons vraiment, bien, ils vont mieux réussir. Et très souvent, malheureusement, dans notre société, on a tendance à pointer toujours les faiblesses des gens et non pas leurs forces. Mais si on leur pointait leurs forces, leur dit comment ils sont bons et comment ils peuvent être exceptionnels, parce qu'il n'y a personne qui devient exceptionnel dans leur faiblesse, on devient exceptionnel dans quelque chose qu'on est déjà très bon. Et si on se concentrait là-dessus, mais seulement adresser certaines de nos petites faiblesses qui ne doivent pas nous nuire, mais ce n'est pas dans ça qu'on doit passer énormément de temps. On aurait des gens beaucoup plus heureux parce qu'ils travailleraient dans ce qu'ils aiment vraiment. Et chez les jeunes, bien, tout le monde a ça. Puis il faut leur faire voir comment ils sont beaux, comment ils sont bons, comment ils sont capables. Et quand on fait ça, bien, on bâtit leur estime qui, un jour, va servir à beaucoup d'autres choses. Et pourquoi l'éducation physique, c'est si important? Parce que l'éducation physique, c'est une micro-société. On apprend à faire plein de choses en éducation physique. On apprend des habiletés, on apprend des choses qui vont nous servir tout de même. On apprend du leadership, on apprend à communiquer, on apprend à se faire confiance, on apprend à faire des défis. Puis ça, les gens qui le font, quand ils arrivent dans le monde des adultes où ils vont avoir un travail à faire, c'est toutes ces habiletés-là qu'ils ont besoin. On ne pense pas que c'est seulement physique. Au contraire, l'activité physique, il n'y a rien de plus mental que ça. Parce que la preuve, si on veut réussir dans le monde du sport, ça passe par notre tête. La confiance, l'estime de soi, c'est ça que l'activité physique apporte. Donc, on n'en fera jamais assez.
Bon, très intéressant. J'aurais répondu la même chose.
Ah, on aurait été un petit peu moins précis, mais c'est excellent. Sinon, on a aussi vu dans nos recherches qu'il fallait ajuster notre évaluation, parce que l'évaluation, c'est notre défi. Donc, la manière qu'on va présenter notre défi, ça va influencer un peu l'angoisse puis l'anxiété de performance de nos élèves. Donc, on avait vu que juste par le fait de donner un objectif clair, donc des consignes claires, ça aidait l'élève à être moins anxieux.
C'est rassurant.
On a aussi vu qu'ajuster la difficulté de l'examen, donc tu en as parlé tantôt un peu, si il a l'impression que le défi est beaucoup trop gros, bien tout de suite, il va abandonner parce qu'il va avoir peur de l'échec.
Ouais.
Puis aussi, finalement, on a vu que la perception de l'élève face à son examen, s'il perçoit l'examen comme un défi, bien ça va être positif, il va vouloir le relever. Mais s'ils voient l'examen comme un danger, c'est là qu'on rentre un peu dans l'aspect négatif puis qu'on voit le danger du décrochage qui va arriver. Donc, nous, en tant qu'enseignants, c'est vraiment notre rôle d'essayer d'offrir un défi qui va être dans sa zone proximale de développement pour s'assurer qu'il ne soit pas trop envahi puis pas trop apeuré par le défi. Mais aussi, dans notre rôle, ça va être aussi d'y en parler positivement puis d'y faire part que l'examen, c'est vraiment une occasion de démontrer ce qu'il est capable de faire et non une occasion d'avoir un échec. Mais sinon, toi, est-ce que tu trouves, est-ce que tu as des trucs quand tu parles à tes patients de proposer des défis qui sont réalistes? Comment tu approches un peu les défis qu'on fasse?
La première chose que je fais, c'est un peu ce que vous faites, c'est que on réutilise un langage qui est beaucoup plus sain. C'est quand les gens me disent « Ah là, je suis stressé », si tu dis à ton cerveau « je suis stressé », là, tu te dis « OK, bien, je vais essayer de ne pas être stressé. Là, je ne suis pas stressé. » Quand tu parles du stress, ton cerveau, ce qu'il fait, c'est qu'il garde juste le stress. Il enlève le mot « ne pas » puis il garde stress. Si tu parles du stress, c'est ce que tu vas vivre, du stress. Mais si tu veux changer le langage, que c'est un beau défi, bien, ce n'est pas la même chose. Et quand tu parles de dire « c'est stressant », il faut que tu dises « non, c'est excitant ». C'est excitant parce que ces jeunes-là se dirigent éventuellement à vivre de quoi qu'ils ont le goût de vivre. Donc, il faut changer le mot stress pour dire le mot excitant, c'est plaisant. Moi, quand je parle à des athlètes de haut niveau qui disent « Ah, c'est stressant ce que j'ai à faire », ben non, tu as choisi de faire ça parce que tu aimes ça, puis c'est ce que tu aimes faire. C'est ça ta passion. C'est pas stressant, c'est excitant. Donc, on change les mots pour qu'on utilise des mots qui nous rassurent. Et tout ça, ben, ça vient de l'estime qu'on porte, de la valeur qu'on se donne à soi. Et l'évaluation que je fais d'une tâche, c'est la confiance que j'ai en moi. C'est est-ce que je vais être capable de faire cette tâche-là, oui ou non? Si je crois que je ne suis pas capable, c'est ce que tu disais tantôt, je vais penser que je vais sûrement échouer parce que je ne serai jamais capable de le faire. Mais si je crois que je peux le faire parce que la tâche, justement, je suis capable de la faire, puis je pense que si on la décortique en petits morceaux de ce qui est à faire, c'est moins épeurant que de voir l'ensemble au complet. Fait qu'on sait qu'on est capable de faire des choses. Puis quand on se convainc de ça, notre confiance va augmenter. Et la confiance, c'est intrinsèque, c'est à l'intérieur de soi. Donc, ce n'est pas de l'arrogance de se parler à soi en disant « je sais que je suis capable ». Puis si on n'a pas cette partie-là, bien malheureusement, on va s'abaisser puis on va croire que toutes les tâches qu'on a à faire sont trop élevées pour ce qu'on est capable. Ce n'est pas le cas. Donc, c'est de trouver une confiance intérieure, vraiment solide en soi, puis être capable de le faire. Si dans le monde du sport, des fois, on dit une équipe a perdu parce qu'il y avait un excès de confiance, ça n'existe pas, un excès de confiance. On ne peut pas avoir trop confiance. C'est de l'arrogance. C'est de l'arrogance et c'est surtout un manque d'estime pour la tâche qui est à faire. Donc, si je crois que la tâche est trop facile, je ne me préparerai pas en conséquence, puis je risque de manquer mon coup. Mais si je pense que la tâche est difficile, je vais me préparer en conséquence. Donc, c'est bon d'avoir des tâches qui sont difficiles, parce que c'est comme ça qu'on se dépasse. C'est comme ça qu'on finit par voir comment on peut être bon. Si on fait seulement des choses faciles, si on veut tout changer et que nos évaluations deviennent faciles pour tout le monde, bien, ça ne devient plus un défi. Puis quand il n'y a pas de défi, bien, ça ne nous définit pas. Le défi nous définit. Et il faut faire ni un ni deux, puis go, on y va. C'est la seule façon de réussir, c'est de le faire. Si on ne l'essaye pas, on ne le réussira jamais.
Oui, puis c'est pour ça aussi qu'il faut donner la chance à nos élèves de faire des erreurs, parce que si on veut qu'ils se lancent 100% dans le défi qu'on leur lance, bien, il ne faut pas qu'ils aient peur, il faut qu'ils se laissent la chance d'essayer, puis il faut leur laisser la chance de tomber pour ensuite leur permettre de continuer puis de se redonner un autre défi. Donc ça, c'est aussi un rôle qu'on a en tant qu'enseignant, c'est de leur donner la chance de se planter pour ensuite
avancer vers l'avant. Ça fait partie de l'apprentissage. Tu as totalement raison. C'est tellement important. Moi, j'ai échoué en troisième année quand j'étais jeune. Puis c'était la fin du monde. Puis j'ai échoué au secondaire jusqu'à temps qu'il y ait une enseignante qui me dit, qui m'a fait faire un petit problème de mathématiques, puis j'ai trouvé la réponse. Je n'étais pas très bon à l'école. Mais j'ai trouvé la réponse, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais au lieu de me dire « t'es pas vite-vite », elle m'a dit « wow, t'es créatif ». C'est pas mal mieux de dire à quelqu'un « t'es créatif » que « pas vite-vite ». Puis moi, je l'ai cru, puis ça a changé ma vie. Les mots peuvent guérir ou les mots peuvent blesser. Et un enseignant, les mots qu'ils utilisent, ils sont tellement puissants. Parce que les élèves, si vous créez un lien de confiance, ils vous aiment, puis ils vont vous prendre comme un modèle. Puis c'est un crime que de les abaisser. Donnez-leur ce qu'ils méritent. Et ce qu'ils méritent, mais c'est des enseignants. Et l'enseignement, tous les gens qui sont des professeurs, c'est le métier le plus important qui existe sur la planète. Puis je ne vous dis pas ça parce qu'on est ensemble en ce moment. Je le dis constamment, peu importe où je fais des conférences dans le monde, je dis aux gens, le métier le plus important, c'est celui de l'enseignement. Malheureusement, on ne le valorise pas assez. Mais si le jour où on va valoriser l'enseignement, vous allez voir que notre société va changer parce qu'on va redonner à notre société de demain de la confiance, de l'estime, et une bonne image d'eux. Et on va faire en sorte qu'on va avoir une société qui va s'entraider, où les gens vont être heureux, puis que ce ne sera pas nécessairement seulement une compétition, mais plus de la collaboration qu'on va avoir ensemble lorsqu'on a des enseignements qui nous enseignent justement que de dépasser, de se donner des défis, puis de s'entraider, c'est ce qui est le plus important.
Oui, très intéressant. Bon, un autre élément aussi qu'on voulait parler avec toi, c'est vraiment les buts scolaires puis le type de motivation pour l'élève. Donc, on a vu que l'enseignant devait vraiment valoriser le but de maîtrise approche, c'est-à-dire que c'est le but de progrès personnel puis d'apprentissage et non vraiment un but de résultat pour une note. Fait que le plus gros avantage de ce but-là, c'est que ça élimine toute forme de comparaison avec les autres. Parce que si l'élève tient à se comparer, peu importe son résultat, s'il a un bon résultat selon lui, mais que finalement, il commence à se comparer avec ses amis, puis que finalement, il est en bas de la moyenne ou en bas des notes de ses amis, c'est là qu'il pourrait vivre encore des situations négatives, ce qui va faire en sorte que lors des prochaines évaluations, il va vraiment avoir un but de performance, puis là, ça va créer son anxiété. Donc, en tant qu'enseignant, il faut vraiment essayer de valoriser l'aspect progrès personnel puis apprentissage, et non l'aspect performance pour éviter justement que les élèves se créer des attentes puis se mettre des objectifs d'un chiffre précis puis que ça fasse en sorte qu'ils oublient toute l'importance de l'apprentissage. Un deuxième aspect aussi qu'on veut vraiment appliquer dans nos classes, c'est influencer la motivation de nos élèves. Donc, tantôt, tu as parlé d'un peu des aspects intrinsèques. Bien, c'est un aspect vraiment important. Donc, on veut que les élèves soient motivés pour eux-mêmes. Donc, leur donner un objectif précis personnel et non un objectif par rapport à bien là, mon père voudrait que j'aie telle note ou bien moi, mon objectif, c'est de plaire à l'enseignant. Donc ça va faire en sorte qu'encore une fois, ils vont se mettre des objectifs externes qui font en sorte qu'ils ont moins de contrôle sur ces objectifs-là, puis ça va baisser un peu leur motivation. Donc, c'est vraiment important de leur donner plus de place, les rendre autonomes pour qu'ils puissent eux-mêmes se mettre des objectifs personnels puis être motivés intrinsèquement. Puis on se demandait si toi, par rapport à la motivation de tes clients, est-ce que tu as des trucs justement pour influencer leur motivation? Comment est-ce que tu interviens avec eux pour agir sur cet aspect-là?
La motivation, moi, je la décris toujours comme étant le motif. Quel est le motif et pourquoi on veut faire ça? Donc, souvent, ces jeunes-là, lorsqu'ils sont à l'école, bien, ils veulent se donner le plus de chances possible pour qu'un jour, dans leur vie, ils puissent prendre des décisions puis décider du genre de carrière qu'ils veulent. Donc, ça devient important d'étudier, non pas pour immédiatement ce que ça va donner, mais pour éventuellement m'ouvrir le plus de portes possible. Et quand on a ça comme motivation, comme élément important du motif, le pourquoi, on commence avec la finalité en tête et le pourquoi, bien, il y a forte de chance que je ne perds pas de l'objectif de vue. L'objectif, c'est que j'aille chercher mon diplôme pour être capable d'avoir une qualité de vie qui va être encore plus grande plus tard. C'est un peu le but qu'on devrait se donner. Si on leur donne ça facile dans ce but-là, bien, on sait qu'on va devoir passer à travers certaines étapes. Pas toujours facile, mais au moins, il y a quelque chose au bout. Il y a une récompense. Il faut se sentir valorisé puis sentir qu'on a qu'on est en train de faire quelque chose qui va nous servir éventuellement.
Bien, moi, si je peux intervenir, ça m'amène à une question puis je ne veux pas coincer personne dans le coin, là, mais avoir ce but-là, tu sais, qui est comme grand, 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 je me demande si ça peut, tu sais, est-ce que ça pourrait augmenter, mettons, l'anxiété ou avoir ce but-là qui est grand, justement, ça motive puis ça te dit, ah, ben je vais faire mes trucs. Je ne sais pas si ma question est claire.
Oui, la question, est-ce que ça devient trop...
tu sais, quand c'est trop grand, c'est trop...
D'avoir un but qui est trop loin.
Oui, ben, exact.
Il y a des buts qui sont à court terme. Le court terme, c'est de réussir les choses que je dois faire en ce moment, mais en gardant en tête le long terme, ce qui me permet de dire, c'est pour ça que je le fais. Je le fais parce que je veux éventuellement cette partie-là, mais je me concentre sur ici maintenant. C'est okay. Un peu comme en saison pour une équipe de hockey, mais on va dire, oui, on veut faire les séries, et pour qu'on fasse les séries, il faut qu'on gagne chaque match en ce moment. Mais on ne perd pas de vue ce qu'on désire en finalité. C'est ça qui nous donne la motivation. Mais cette motivation-là n'est pas stressante quand on prend les bouchées, des petites bouchées, donc des petits steps, baby steps, one step at a time. Puis là, tu vas y arriver. Mais c'est important de garder quand même la motivation finale. En fait, la raison finale pourquoi on veut faire ça. Puis, tu sais, l'activité physique, là, puis la santé, si on pouvait mettre dans un petit récipient tout le bienfait que l'activité physique peut faire pour la santé des gens, autant physique que mentale, ce serait le médicament le plus puissant au monde. Donc, c'est important aussi de leur faire comprendre ça, que c'est pour eux, puis c'est bon pour eux. C'est pas seulement un objectif final, mais que ça fait du bien à ta santé, autant physique que mentale, si les jeunes étaient plus actifs, ben on aurait des gens en meilleure santé, en fait.
Ouais, c'est intéressant que tu parles aussi de l'importance du but global, parce que je pense que en ayant un but global et un grand but, ça enlève un peu l'aspect dramatique de chaque petite étape, parce que tu dis, j'ai un objectif global, j'ai des petites étapes à franchir, puis si je me plante ou je manque une des petites étapes, bien, c'est pas grave, parce qu'au final, sur, comme Marc-André dit, the big picture, bien, la petite étape que tu vas avoir manqué, bien, ça n'aura pas un impact dramatique sur ton but global. Fait que ça, non. Je pense qu'en ayant ton grand but, ça peut justement faire en sorte que l'élève il dédramatise un peu les situations comme un examen à sa troisième année du primaire et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment intéressant de justement d'avoir un grand but pour t'aider dans ta démarche, là. Donc, tu voulais y aller, oui?
Ben moi, c'était plus pour justement, je sais qu'on a on pourrait en parler, on a tellement d'autres questions ou d'autres sujets, mais il faudrait...
Faudrait conclure,
c'est ce que je voulais dire.
Sur ça, ben, merci beaucoup, Sylvain, pour ta participation. On est vraiment chanceux de t'avoir eu sur
Balado. Ouais, vraiment, vraiment.
Le privilège est tout à moi. Là, ça me fait du bien de parler avec vous autres. Puis je souhaite juste une chose, c'est que mes petits-enfants vous aient comme professeur un jour.
Ben, on l'espère, ça serait le fun. Ça serait une belle anecdote. Ça viendrait boucler la boucle, ça serait cool.
C'est une belle conclusion. Ouais. C'est une belle phrase de conclusion. Ça, je l'aime.
Donc, sur ce, merci beaucoup.
Ben, merci à vous autres. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.
Donc, un gros merci à Sylvain pour sa participation à notre balado. On est vraiment chanceux qu'il ait trouvé un trou dans son horaire pour participer. Sur ce, j'espère vraiment que vous avez appris beaucoup sur l'anxiété de performance et sur des moyens d'intervenir auprès des jeunes. Un dernier merci et à la prochaine.